Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Les clés d'une vie, celle de mon invité. Vous avez grandi dans un port de pêche avant de découvrir ce qu'était encore la télévision en 825 lignes. Un univers où vous demeurez aujourd'hui plus que jamais dans la note. Et pas seulement parce que vous êtes un passionné de musique. Bonjour Yves Bigot.
Bonjour Jacques Pessis.
Alors, il y a la musique, il y a la télévision, la radio. Vous avez un parcours audiovisuel qui vient de, pas de se conclure, mais de recevoir une récompense fabuleuse, le Laurier d'Or, pour votre carrière. Vous êtes aujourd'hui directeur général de TV5 Monde. Et je vous avais reçu dans les clés d'une vie, il y a 5 ans. On avait parlé de sport, de musique. Et là, on va parler de télé avec votre parcours, si vous en êtes d'accord.
Ah, écoutez, comment n'en serais-je pas d'accord avec vous, cher Jacques?
Alors, la première date que j'ai trouvée, c'est le 17 décembre 1985. Vous êtes dans cette émission. L'Académie des Neufs, vous n'êtes pas présent dans une case, mais vous accompagnez le groupe qui chante ceci. Raband. Alors, il y a une jeune femme qui chante. Oui, vous êtes une jeune chanteuse blonde avec Raband. C'est une chanson de Richard Anthony Hewson. C'est un succès mondial. Elle ne parle pas français. Et vous êtes dans une case à côté d'elle pour raconter un peu le disque et pour traduire ses propos. Vous en souvenez ?
Pas du tout, Jacques, c'est vous. Mais je me souvenais qu'on m'avait traîné, effectivement, une fois ou deux, d'ailleurs, à l'Académie des Neufs. Mais alors, franchement, vous rafraîchissez ma mémoire, parce que je l'avais zappé. Hein.
Voilà. Et cette chanson a été un succès mondial. Je ne sais pas si vous la connaissiez. C'est un groupe fictif anglais, RAH, les initiales. Et ça a fait le tour du monde avec cette chanteuse blonde qui était la femme de l'auteur, qui s'appelait Liz.
Alors, écoutez... Je n'en ai gardé aucun souvenir, pas même ému.
Vous êtes en une sorte de jogging comme tenue et vous êtes tout jeune et déjà beau. Voilà. Et dans cette émission, il y avait Jacques Chazot, qu'on a un peu oublié aujourd'hui, qui a été vraiment l'homme d'esprit parisien par excellence, qui a fini sa vie dans le château de Brialy, à Montyon, où il est enterré aujourd'hui. Je ne sais pas si vous le savez.
Non, je ne le savais pas. Alors, mais en revanche, j'ai partagé un Europe 1 pendant des années, un bureau avec Jean-Claude Brialy, qui venait vérifier tous les matins que tout était bien en place dans mon pantalon blond.
Voilà. Alors justement, à Europe 1, vous avez débuté et vous avez été homme à tout faire. C'est-à-dire que vous avez été réalisateur, producteur, animateur de chroniques, de tubes. Vous avez vraiment tout fait. Vous travailliez jour et nuit à l'époque, Yves Bigot.
C'est vrai, et il y avait même un concours avec quelques-uns de mes camarades qui était celui qui prendrait le moins de jours de vacances sur l'année. Je crois que j'ai gagné 2 années consécutives en ne prenant que 3 jours.
Oui, c'est une époque où à la radio, c'était pas comme aujourd'hui, on pouvait tout faire en toute décontraction, en famille.
On pouvait surtout se bidonner, mais... C'était extraordinaire, Jacques, vous avez connu ça aussi. Oui. Vous étiez dans la maison concurrente hein, de celle où j'étais, mais avec François Divot, Christian Morin, Laurent Villevieille, Jean-Loup Lafont et tellement d'autres. Oui, c'était des années de créativité, de liberté, vous l'avez dit. Et sans liberté, d'ailleurs, il n'y a pas de créativité, parce qu'on se censure en permanence.
Alors, vous avez aussi créé, vous avez réalisé la première ligne ouverte de l'histoire de la radio avec Gonzague Saint-Brice, La Nuit.
C'est vrai, et on était tous les soirs à minuit, et j'étais son réalisateur et son consigliere, et, hein, pour ainsi dire. Gonzague, c'est un personnage extraordinaire, à l'époque qui avait lancé le mouvement des nouveaux romantiques, hein, vous vous souvenez, mais qui était absolument extraordinaire dans ce rôle hein, d'écoute à la radio, d'auditeur qui appelait, je me souviens là, alors... Très très précisément, hein, d'appel d'un cambrioleur qui nous avait appelé, par exemple, de l'appartement qui cambriolait, et donc sur la note de téléphone, évidemment, des gens chez qui il se trouvait. On avait quelqu'un qui avait appelé pour avouer un meurtre. On avait des choses incroyables. Et puis, évidemment, on se bidonnait parce qu'il y avait des gens qui cherchaient à piéger Gonzague, bien sûr. Donc, il y avait quelqu'un qui l'avait appelé un jour en lui disant, voilà, moi, je voudrais vous parler du 3e album de Led Zeppelin. Mais évidemment, comme c'était moi qui étais à son oreille dans son casque. Alors, à la télé, on dit l'oreillette, mais à la radio, c'est le casque. Et donc, Gonzague Saint-Brice était passé aux yeux de la France entière pour un connaisseur et un spécialiste de l'album Led Zeppelin 3. Et alors là, l'auditeur qui avait cru le piéger, le gars était totalement sidéré parce qu'il n'avait pas, évidemment, la moindre idée de comment ça se passait. Mais c'était une émission absolument formidable, une émission très importante qui permettait de prendre le pouls de la société française, hein, comme rarement ça a été fait et qui n'a jamais été, elle a été beaucoup copiée, mais personne, je pense, n'a jamais eu la capacité d'écoute et d'empathie qu'avait Gonzague Saint-Brice. Franchement, moi, j'étais bluffé tous les soirs par sa capacité de... Ouais, vraiment d'écoute et de faire parler les gens. Alors, bien sûr, il n'est pas le seul, mais je vous promets, j'ai beaucoup écouté les autres. Et encore aujourd'hui, il est intouchable.
Oui, et il était un travailleur fou. C'est-à-dire qu'il avait un petit chalet à Loche où venaient toutes les stars et signaient les murs. En revanche, en face, il y avait le château de sa tante où il n'avait pas accès parce que c'était un artiste. Et chez les Saint-Brice, un artiste était interdit de séjour.
C'est vrai. Et alors, pour tous ceux qui seraient intéressés par la mémoire de Gonzague Saint-Brice, hein, malheureusement, qui est mort dans un accident de voiture il y a bientôt 3 ans, lisez Les Vieillards de Brighton. C'est son chef-d'œuvre. Je ne vais pas vous parler d'autres livres, parce qu'on peut ne pas aimer son style, on peut empouler, etc. Mais Les Vieillards de Brighton, il raconte son enfance, justement, d'enfant qui a été exilé par sa famille au milieu quasiment d'un asile de vieillards sur la côte anglaise. Hein, Brighton, c'est Deauville. C'est un chef-d'œuvre.
Alors, la passion de la radio pour vous, Yves Bigot, elle est née très tôt.
Ah oui, elle est née à l'écoute de la radio. Hein. Je grandissais, comme vous l'avez rappelé, à Saint-Tropez. Et j'écoutais donc Radio Monte-Carlo, puisque c'était la seule radio qu'on entendait correctement là-bas. C'était bien avant hein, qu'on invente la FM, etc. On était tous en grandes ondes. Et j'ai grandi à l'écoute de vrais personnages de la radio. Jean-Michel Desjeunes, Pierre Lescure, Michel Cogoni... André Torrent.
Oui. Et vous avez réussi ensuite, parce que je crois que vous avez ouvert un magasin de disques, à être le partenaire de Radio Monte-Carlo, et vous avez commencé comme ça, Yves Bigot.
Oui, c'était Christian Geldreich qui faisait office, sans avoir le titre de directeur des programmes de Radio Monte-Carlo, dont je suis devenu l'assistant à la radio et l'associé dans un magasin de disques d'importation, donc de disques américains et anglais qu'on ne trouvait pas en France à l'époque, hein, c'était bien avant la mondialisation. Et donc, à Nice et à Saint-Tropez, on avait ces deux magasins. J'ai commencé par tenir la succursale de Saint-Tropez l'été, puis ensuite, je suis venu tenir le magasin de Nice, tout en étant l'assistant de Christian, qui m'a donc appris à faire de la radio, il m'a appris à faire du montage, à faire de la programmation, de la réalisation, etc. Là aussi, avec des personnages extraordinaires, comme Léon Orlandi, dont le nom dira peut-être quelque chose à tous les vieillards comme nous, Jacques.
Oui, et qui était le complice de Jean-Pierre Foucault sur Radio Monte-Carlo, au moment où Foucault démarrait. Alors, être disquaire, c'est déjà à l'époque un commerce essentiel, oui. Mais vendre des disques américains, alors que bon, à Paris, il y avait une boutique qui s'appelait Lido Music, je crois.
Bien sûr.
Sur la Côte d'Azur, c'était pas évident.
Non, on était les seuls. Hein, à Paris, il y avait 2 ou 3 magasins. Il y avait Lido Music, il y avait Givaudan, et... Il y avait Musique Action à Toulouse et nous, donc Disque Import à Saint-Tropez et à Nice.
Et parce que la musique était votre passion depuis toujours.
Oui, absolument. C'est parce que j'avais lu d'ailleurs hein, une petite annonce dans Rock et Folk, donc, qui était la bible hein, des amateurs de rock à l'époque, annonçant l'ouverture de ce magasin à Nice, que j'y suis allé comme client. J'y ai rencontré Christian et c'est comme ça que, devant mon enthousiasme juvénile, il a décidé en fait, de devenir mon mentor.
À Saint-Tropez, à l'époque, la musique, c'était Bardot, qui accompagnait, je crois, Chico dans des soirées mondaines où elle dansait et chantait. On disait, mais cette femme ressemble à Bardot.
Absolument. Donc, Chico des Gypsy Kings, oui. Hein, qui à l'époque s'appelait Los Reyes, oui. Encore. Et effectivement, elle adorait la musique gitane. Hein, elle avait eu, dit-on, une aventure avec Manitas de Plata, qui était d'ailleurs l'oncle hein, de la partie guitaristique des Gypsy Kings. Et elle aimait tellement cette musique, Brigitte, qu'elle se déguisait en gitane. Hein, et elle allait danser avec eux dans des soirées, etc. Et les gens se disaient quand même, cette gitane, c'est étonnant. Elle ressemble à Brigitte Bardot. Ben oui, c'était elle.
Alors, c'était une époque où il fallait défendre la musique. C'était beaucoup plus facile qu'aujourd'hui, parce que dans les radios, il y avait des programmateurs, mais la programmation se faisait à la main avec des tableaux. Et quelquefois, la vedette y allait. Sheila allait elle-même présenter ses disques.
Oui, bien sûr, tout était artisanal à l'époque, c'était humain. Jacques, c'était avant le marketing, c'était avant toutes ces choses aujourd'hui qui, entre guillemets, professionnalisent. On n'était pas moins professionnel à l'époque et d'ailleurs, on n'avait pas moins de succès. C'était juste des méthodes de travail qui étaient différentes parce qu'on était en train d'inventer la radio. Maintenant, aujourd'hui, la radio, elle est inventée. Elle évolue, mais elle est quand même figée sur un modèle. Nous, on était, enfin moi je suis arrivé sur la fin de la vague des pionniers qui ont vraiment inventé la radio. Donc c'était plus libre, Et puis quand on invente, c'est toujours aussi un peu plus excitant.
Voilà, et il fallait trouver le bon disque, le lancer. Il n'y avait pas autant de radio qu'aujourd'hui à l'époque, Yves Bigot.
Ah, il y en avait beaucoup moins. Il y avait d'ailleurs Sud Radio, oui. Hein, il y avait Radio Monte Carlo. Il y avait à Paris, Europe 1, Radio Luxembourg et France Inter, donc la radio d'État.
Alors, il y a une anecdote qui m'a toujours fait rire, c'est que pour lancer un disque, il faut quelquefois procéder à des astuces. Et pour lancer cette chanson, que vous allez reconnaître, il y a eu une astuce. Alors, je ne sais pas si vous connaissez l'histoire.
Je connais la chanson, voilà, en revanche.
Il se trouve que cette chanson ne passait pas à la radio. Et Jean-Paul Barkoff, l'attaché de presse, la façade de RTL était en train d'être faite. Il a payé les peintres pour siffloter cette chanson tous les matins devant le bureau du directeur des programmes, qui a cru que la chanson était un succès. Et c'est comme ça qu'elle est devenue un succès.
C'est pas mal. Je vais vous dire ce qu'on faisait, nous, par exemple, à Radio Monte Carlo, avec Pierre Lescure. C'est on avait inventé le hit parade mouvant, qui a été repris et copié par la suite par RTL notamment. C'est-à-dire que c'était les auditeurs qui téléphonaient au cours de l'émission pour faire avancer ou reculer les chansons. Et on avait reçu, via l'Angleterre et l'importation justement, My Sweet Lord par George Harrison. Avant tout le monde, le disque n'était pas sorti dans le commerce, et nous on avait adoré ce morceau. On le passait, vous savez ce qu'on appelait à l'époque du matraquage, de ce morceau qu'on adorait, et qui donc s'est retrouvé numéro 1 du hit parade de Radio Monte Carlo alors que le disque n'était pas sorti.
Et vous êtes devenu un spécialiste de musique anglaise, il n'y en avait pas beaucoup à l'époque, Yves Bigot.
Alors il y en avait, on était quelques-uns, mais pas comme aujourd'hui, des centaines et des milliers, et voilà, donc c'est d'ailleurs parce qu'on n'était pas nombreux, sans doute, que j'ai réussi à faire, voilà, à faire mon chemin dans ce domaine. Ouais.
Pas seulement, et on va le démontrer avec une autre date, le 14 janvier 1989. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Bigot.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Bigot, aujourd'hui directeur général de TV5 Monde, on va en reparler. Mais il y a une date importante, c'est le 14 janvier 1989, une émission de télévision dont voici le générique. Lunettes noires pour nuit blanche, et ce soir-là, il y a un match de rock'n'roll entre Antoine Decaune et vous, que vous gagnez, Yves Bigot. Vous en souvenez ?
Oui, bien sûr. Alors ça, je m'en souviens pour deux raisons. D'abord parce que je m'en souviens, et ensuite parce que régulièrement, des gens me renvoient évidemment l'extrait de cette émission, donc de Thierry Ardisson, Lunettes noires pour nuit blanche. C'était au Palace.
Oui.
Et d'ailleurs, Jacques, je détiens toujours le titre, car récemment, sur une radio concurrente de la vôtre, j'ai été le premier concurrent de l'Hardy Night, donc la nuit Ardisson, où pendant 3 heures, on faisait notre programmation, Thierry et moi, et les auditeurs téléphonaient pour voter pour DJ Thierry ou pour DJ Yves, et j'ai gagné, mais merci Thierry de m'avoir invité.
Voilà, alors effectivement, dans cette émission, vous connaissez les interprètes originaux de « Je veux te graver dans mon cœur », où il y a toujours un coin qui me rappelle. Comment est venue cette culture, Yves Bigot, immense apparemment?
Mais la passion, hein, il n'y a pas d'autre raison. La passion, et puis le fait d'avoir été un bon auditeur de la radio et des histoires qu'on racontait à la radio, comme vous le faites aujourd'hui, Jacques. Et puis, juste quand on aime quelque chose à cet âge-là, hein, parce que moi, je me suis passionné pour la musique et pour le rock à partir de à peu près mes 9-10 ans, vous savez, ce qu'on apprend et ce qu'on écoute à cet âge-là, c'est dévorant, c'est vous gardez ça pour la vie, hein.
Oui, mais dans les années 60, quand on voulait écouter les chansons américaines, on mettait, comme Frank Alamo, une antenne au-dessus du toit et on écoutait Radio Caroline. Là, c'est pas facile. Déjà, on n'est pas en 2021 pour trouver tous ces disques. C'est pas facile, Yves Bigot.
Alors, j'ai eu la chance, justement, que Christian Galdrej, Jean-Michel Desjeunes, Jacques Ball et Pierre Lescure avaient cette émission formidable tous les jours de 18h30 à 22h sur Radio Monte Carlo. Et ils jouaient toute cette musique qu'on entendait nulle part ailleurs, en tous les cas, nulle part ailleurs sur la Côte d'Azur.
Alors, Antoine Decaune, si vous êtes face à lui, c'est que vous avez une complicité, puisque vous avez ensemble réalisé la première émission de télévision vendue à la BBC, qui était Rapido.
Oui, bien sûr, j'étais le rédacteur en chef de cette émission, et d'Antoine, qui effectivement, pendant 4 ans, a été diffusé dans tout le Royaume-Uni. Sur la BBC, d'abord sur BBC One, puis sur BBC Two, à des bons horaires, hein, 23h sur BBC One, 19h sur BBC Two. on était nous-mêmes les premiers surpris d'être des petits Français qui allaient raconter le rock aux Britanniques. C'était quelque chose d'absolument incroyable. Au début, Antoine, quand il a été appelé par la directrice des programmes jeunesse de la BBC, pensait que c'était une blague. Puis quand il a compris que c'était pas une blague, il m'a appelé, il m'a dit « Écoute, c'est une aventure, est-ce que tu viens avec moi? Je voudrais que tu sois mon rédacteur en chef. » Et on a fait ça pendant 4 ans ensemble. Et je suis d'une reconnaissance absolue à Antoine. C'est une des rares personnes au monde qui peut absolument tout me demander.
Oui, mais alors, comment ça se fait que les Anglais aient repéré cette émission? Parce que c'était une émission de rock parmi beaucoup d'autres, non?
Alors, c'était une émission qui était sur TF1, en fait, avant que je ne la rejoigne, pendant une saison. Et je crois que les Anglais ont vu une émission spéciale qu'Antoine avait fait avec Paul McCartney comme invité principal, qui était en plateau, qui jouait à la guitare les morceaux qu'Antoine lui demandait. Ils ont été bluffés à la fois par l'émission et par Antoine. Et on en a fait une version, d'ailleurs, tout à fait différente pour la BBC, parce que les codes, évidemment, n'avaient rien à voir avec les codes de TF1. Mais je pense que le physique d'Antoine a aussi beaucoup touché les Britanniques. D'ailleurs, je recevais au bureau pour lui toutes les semaines des sacs de courrier avec des centaines de demandes en mariage venant du fin fond de l'Écosse ou de l'Irlande.
La première télé d'Antoine Decaux, je l'ai retrouvée il a 4 ans. C'est sa mère, Jacqueline Joubert, qui le présente à la fin d'un défilé. Jacqueline Joubert qui avait rencontré Georges Decaux dans les coulisses du journal télévisé, car à l'époque, le journal débutait. Tout le monde était dans une petite cabine réduite où on faisait des commentaires de reportages qu'on n'avait pas vus avant, donc on disait n'importe quoi. Et comme elle était la speakerine de service, c'est comme ça que Antoine a vu le jour quelques années après. Alors, il y a ça, et puis il y a eu le top 50, parce que vous avez été aussi suppléant de Marc Toesca et Yves Bigot.
Oui, alors ça, c'est évidemment, pour moi, un des aspects, on va dire, qui m'ont le moins excité dans ma carrière, mais je vous dirais que je n'ai pas eu le choix, en fait, parce que le top 50 avait été monté par Canal+ et Europe 1.
Et Philippe Gildas.
Philippe Gildas, donc, qui était mon patron à Europe 1, Pierre Lescure, qui était le patron de Canal+, que je connaissais tous les deux, et Marc était l'employé de Canal. Et moi, j'étais l'employé d'Europe 1, même si je faisais aussi quelques autres choses pour Canal. Donc on m'a dit, Marc, d'abord, il faut qu'il prenne des vacances. Ensuite, ce garçon très sympathique, à l'époque, circulait beaucoup en scooter et avait fréquemment des accidents de scooter. Donc j'étais amené à le remplacer, et pour les vacances, et quand il était à l'hôpital, ou en tous les cas, qu'il avait des pansements sur la figure et ne pouvait plus venir à la télé. Donc j'ai présenté le top 50, j'étais très mauvais. Et d'ailleurs, au bout d'un certain temps, on a fini par demander à d'autres personnes plus compétentes de devenir les jokers de Marc. Mais je me souviens d'avoir passé un été à présenter le top 50 depuis le festival de Montreux, parce que c'était le deal. Quand Lescure m'a appelé, j'ai dit « Mais Pierre, j'adorerais, mais je suis au festival de Montreux pour Europe 1 et pour Libération, donc ça ne va pas être possible. » Il m'a dit « Mais si, parce que nous allons envoyer l'équipe pour te filmer et faire tes lancements au Festival de Montreux. » Ce qui m'a permis notamment, ce petit plaisir pervers personnel, de lancer Ouragan par Stéphanie de Monaco, avec derrière moi, sur la scène du Festival de Montreux, Miles Davis en train de répéter.
Oui, c'est effectivement un petit luxe. Alors il faut savoir que le top 50 est né parce qu'on n'était pas sûr du classement de Hit Parade, qui est né d'ailleurs dans les années 50. Et on a oublié, avant que le Hit Parade, il y avait la Bourse des Vedettes d'André Salvay, dans les années, fin des années 50, qui était un producteur qui également écrivait des chansons pour Sheila et quelques autres, et qui a inventé cette formule avec les meilleures ventes de disques. Il y avait des 33 tours avec la Bourse des Vedettes. Je ne sais pas si vous les avez connues, Yves Bigot.
Alors non, je n'ai pas connu les Bourses des Vedettes. Jean-Jacques, ne me faites pas dire ce que je n'ai pas...
Non, je n'ai pas connu. C'était le titre de l'émission.
Oui. En revanche, le top 50, je dirais que ça a été un bien pour un mal et un mal pour un bien. Si vous voulez, ça a été un bien parce que ça a permis de vérifier que non, Mireille Mathieu ne vendait pas des millions de disques. Certes, elle était connue par tous les Français, mais en tous les cas, quand le top a démarré, elle ne vendait plus des millions de disques, elle ne vendait même plus de quoi être classée parmi les 50 meilleures ventes. En revanche, il y a eu beaucoup de perversions de ce top. D'abord, je vous passe sur un certain nombre de producteurs plus malins que d'autres qui se procuraient, comme ils le pouvaient, les adresses des magasin de disques qui allait être sondé, et donc qui disait « Prends-moi 5000 exemplaires de tel artiste, et tu sais quoi, comme ça, tu lui les déclares vendus, mais moi, je te les rachète 15 jours après. Ouais. Mais comme ça, ils sont rentrés dans les 10 premiers, donc c'était totalement artificiel. Comment faire un tube qui n'en est pas un? Exactement comme votre ami Berkoff, ouais. Un peu avec la Ventura, mais de manière...
Barkoff.
Barkoff, pardon.
Ouais. Oui, c'est pas le même.
C'est pas le même, vous avez raison.
On est sur Sud Radio.
Voilà, alors, c'était plus malhonnête, on va dire, que de siffler la Ventura. Et puis ça a eu aussi comme inconvénient que très vite un certain nombre de magasins ou même de radios qui étaient concurrentes ne rentraient dans leur playlist que les titres qui étaient au top 50 et du coup écartaient beaucoup d'autres artistes. Ça a rendu beaucoup plus difficile en tous les cas pour des jeunes artistes ou des artistes différents de se faire connaître. Ça a été le début de la prise de main du business sur un truc qui jusque-là était plus spontané mais était aussi mensonger. Donc voilà, je vous dis, aujourd'hui encore, je ne sais pas si ça a été un bien ou un mal.
Ouais, et vous avez quand même créé le Stop 50, Yves Bigot.
Ah oui, parce que il fallait bien que je redore un peu mon image. Donc j'ai lancé, je crois en 1988, si ma mémoire est bonne, une chronique hebdomadaire du lundi, la chronique du lundi dans Libération, qui s'appelait donc Stop 50, la chronique des tubes, et où là, voilà, je faisais preuve d'une certaine ironie envers les chansons les plus ridicules du moment.
Et comment êtes-vous devenu journaliste à Libération, effectivement, Yves Bigot?
Alors, un appel, ça devait être au printemps 1983, un appel de Bayon, qui connaissait très bien ma compagne d'alors, qui écrivait aussi pour Libération, et qui me dit, écoutez, on me dit que vous êtes un grand spécialiste de Bob Dylan, ça va être un peu son retour avec l'album Infidels, donc est-ce que pour Libération, vous écririez un grand papier, je vous donne 4 pages dans le quotidien, et c'est pour dans 48 heures.
C'est comme ça que ça a commencé.
Voilà.
Et ensuite, vous avez été un critique, mais un critique pas comme les autres. C'est-à-dire que vous disiez vraiment ce que vous pensiez, avec effectivement ironie et humour. Vous êtes moqué aussi de Mick Jagger, de la lambada, de plein de choses comme ça, Yves Bigot.
Oui, alors la lambada, c'est plus que de s'en moquer, hein, puisque c'est moi qui avais révélé le scandale de cette chanson volée à des musiciens boliviens. Hein,
par incroyable.
Voilà, une histoire démente, qui a été d'ailleurs une grande saga dans Libération, et je suis encore reconnaissant aujourd'hui à Serge Julie et à Bayon de m'avoir permis d'écrire comme ça des tonnes et des tonnes de papiers sur le sujet, encore une fois, en toute liberté, puisque évidemment j'avais été attaqué en diffamation par les coupables, bien sûr. Attaquer en diffamation quand on a fait quelque chose de mal, c'est un moyen de faire croire pendant un certain temps qu'en fait on avait raison. Hein, jusqu'à ce que, en général, la justice se prononce. Dans mon cas, la justice n'a pas eu à se prononcer. Ils ont retiré leur plainte parce qu'ils savaient que j'avais raison depuis le début. Mais oui, ça a été passionnant. Moi, genre, écoutez, moi, toute ma vie, cher Jacques, j'ai bénéficié partout où je suis allé, à Europe 1, à France Inter, à Libération, à Rolling Stone France, pour lequel j'écris encore aujourd'hui, à France 2, à RTL, mais partout, à la RTBF en Belgique, d'une liberté absolue dans ce que j'ai fait. Je remercie ma bonne étoile.
Hein. Écoutez, la liberté, elle existe aussi à Sud Radio. Notre slogan, c'est « Parlons vrai ». Et c'est en toute liberté qu'on va parler dans quelques instants d'une autre date, le 13 août 1998. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Bigot.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Bigot, directeur général de TV5 Monde. On en reparlera dans quelques instants avec les Lauriers d'Or. 13 août 1998, vous êtes au journal d'Antenne 2 pour évoquer cet artiste.
On dirait le sud, le temps du...
C'est Nino Ferrer qui s'est suicidé la veille, et vous évoquez la mémoire d'un homme et une mort qui ne vous a pas vraiment surpris, Yves Bigot.
Non, parce que je connaissais bien Nino, car avant de rentrer à France 2, j'avais dirigé 2 maisons de disques, dont notamment Fnac Music Production, où Nino était venu me voir avec un très bel album, La Désabusion. Aucune maison de disques traditionnelle ne voulait de lui, parce qu'il était considéré comme has-been, parce qu'il avait un caractère explosif aussi, faut-il dire. Donc j'ai travaillé avec Nino sur cet album, on en a fait un beau succès. Nino a pu repartir en tournée pour la première fois depuis des années. Donc j'ai vraiment pu le connaître et le côtoyer. Et c'était un être d'une hypersensibilité comme j'en ai rarement connu, qui était déstabilisé parfois par un rien et qui pouvait, mais explosé de colère, mais d'une colère violente, hein, c'est-à-dire dans une radio, encore une fois concurrente de la vôtre. Il était furieux parce qu'on avait arrêté sa chanson avant la fin. Il s'est levé, il a cassé la porte du studio, par exemple. Oui. Inutile de vous dire qu'il, d'un seul coup, il n'était plus invité dans aucune radio par la suite. Donc c'est quelqu'un qui se faisait du mal à lui-même aussi, mais qui était incroyablement émotif. C'est un Italien, hein. Alors tous les Italiens ne le sont pas, hein, surtout quand ils jouent au football, mais Agostino Ferrari, et il ne s'est jamais remis de la mort de sa maman, avec laquelle il parlait tous les jours, et il s'est suicidé dans un champ à côté de chez lui, sa propriété, la Taillade, hein, qui est dans le sud-ouest de la France, dans le Gers, je crois, si ma mémoire est bonne. Et donc effectivement, oui, je n'étais malheureusement pas surpris. Et j'ai essayé de me consoler en me disant que peut-être au moins le tourment était fini.
Oui, il est culte aujourd'hui, en plus, Nino Ferrer, alors que de son vivant, son meilleur copain, c'était le facteur du village, et qu'il était fier d'avoir monté une chorale qui avait chanté la Marseillaise en 89 et qui est venue à Champs-Élysées. C'était une sorte de folie permanente, mais avec un talent incroyable.
Un musicien et un chanteur hein, extraordinaire, avec une voix formidable, comme souvent les Italiens, hein, une voix un peu rauque, comme ça, un peu rappeuse, mais qui a écrit des chansons extraordinaires. Tout le monde, évidemment, connaît le Sud ou La Maison près de La Fontaine. Mais une chanson qui s'appelle Ma vie pour rien, c'est terrible. Mais quelqu'un qui a écrit Ma vie pour rien, soit c'est Patrick Sébastien, soit c'est quelqu'un qui va se suicider.
Alors, vous êtes à l'époque, effectivement, dans des maisons de disques, c'est autre chose, c'est un autre univers, vous avez quitté la radio, vous n'êtes pas encore à la télévision, les maisons de disques, c'est un univers qui n'a rien à voir en plus avec celui d'aujourd'hui, c'est encore un peu familial, Yves Bigot.
Oh, ça commençait à ne plus l'être, hein, oui. Jacques, parce qu'après Fnac Music Production, j'ai été le directeur de Mercury, donc le plus gros label français, hein, Johnny Hallyday, etc. Non, on était déjà arrivé dans le monde industriel. C'est d'ailleurs peut-être un peu l'erreur d'appréciation que j'ai faite. Parce que moi, j'admirais les grands producteurs, Ahmet Ertegun, Clive Davis, David Geffen, Elliot Roberts, etc., Berry Gordy. Et j'étais fasciné, je rêvais d'être une petite version française de ça. Mais je suis arrivé dans l'univers des maisons de disques au moment où les multinationales avaient pris le dessus et où la question n'était plus tant de savoir si on allait produire un bon disque, mais comment on allait le vendre.
Voilà. Et alors que moi, j'ai vu, il n'y a pas longtemps, le livre d'or de Sheila en 64 chez Philips, il y a une quinzaine de personnes, et tout le monde le signe, y compris la standardiste. C'était une famille.
Oui, bien sûr. Alors, je pense que Sheila a un avis sur la famille de chez Carrère, ouais, de l'époque. Ouais, hein. Ouais, okay. Mais je vous laisserai lui demander directement. Mais oui, vous avez raison. On était dans un univers artisanal qui est passé dans le domaine de la multinationale. Donc, vous savez, un peu dans toutes les industries, ou en tous les cas les industries créatives, au début, vous avez toujours des pionniers qui sont des gens qui ont des idées, qui ont la passion. Ça interdit pas d'ailleurs qu'il y ait des opportunistes hein, qui viennent s'y greffer, mais c'est des gens qui inventent le métier, qui ont des idées, qui sont créatifs, qui sont très enthousiastes, etc. Puis au bout d'un moment, comme ces gens à la fois gagnent beaucoup d'argent, mais en dépensent beaucoup aussi, on dit, ah ben, faudrait leur mettre peut-être un peu des financiers, donc on va mettre d'abord un comptable, puis après un directeur économique, etc., tout ça. Et puis après, eh ben, à ce moment-là, commencent à arriver les multinationales, et alors là, c'est les actionnaires, et alors là, c'est le profit, et il faut que les dividendes soient plus importants d'année en année. Si vous voulez, Jacques, je vais vous raconter une histoire terrible qui est arrivée à un de mes collègues, Albert Slendebroek. C'était un Néerlandais qui dirigeait Mercury Allemagne. Moi, je dirigeais Mercury France, donc évidemment, on se voyait souvent et on échangeait. Et une année, Albert signe un groupe suédois qui s'appelle Ace of Base, qui fait un succès mondial incroyable, numéro un aux États-Unis, numéro un dans le monde. Donc, évidemment, Mercury Allemagne fait un profit extraordinaire. Albert est l'employé de l'année. Il touche des bonus insensés. On lui propose toute la concurrence veut le débaucher, etc. Et lui, il est fidèle, il reste là. Et bien, l'année d'après, les jeunes gens de Ace of Base commencent à être... Il y en a un qui a arrêté pour des histoires de poudre, un autre qui préfère partir avec une quelconque Miss Monde, etc. Et donc, ils n'enregistrent plus. Et donc, évidemment, le chiffre d'affaires de l'année suivante est très, très, très inférieur à celui de l'année précédente. Eh bien, Albert a été viré.
Voilà.
Voilà la logique des multinationales.
Alors, pour contrer tout ça, vous avez même travaillé au ministère de la Culture avec une commission consultative officielle. Vous étiez bénévole pour aider les jeunes groupes de rock. Alors, le ministère de la Culture est dans le rock, c'était pas évident au départ, Yves Bigot.
Absolument, c'est d'ailleurs pour ça que je n'avais pas été le monsieur rock de Jack Lang, car et je dois dire que je m'entendais très bien avec Jack Lang à l'époque, et d'ailleurs toujours aujourd'hui, mais Monique Lang avait dit, à mon avis, Yves Simon, non, on ne va pas prendre Yves pour ça parce qu'il est trop libre. Et je suis ravi des deux qu'ils aient considéré que j'étais trop libre et que je n'ai pas pris le boulot qui a été pris par Bruno Lyon, qui est quelqu'un de très bien. Mais donc, on m'a donné en revanche la présidence de cette commission qui a très bien travaillé pendant 2 ou 3 ans. On a même fait un projet de loi pour régir les rapports entre les producteurs et les diffuseurs. Et malheureusement, c'est un projet de loi qui, comme souvent en France, est resté à l'état de projet, alors qu'on en aurait bien besoin encore aujourd'hui.
Alors la télévision est arrivée derrière. Vous êtes retrouvé à la direction au départ des divertissements des jeux. Comment c'est arrivé, Yves Bigot ?
Alors, c'est arrivé via les Victoires de la Musique. J'étais directeur général de Mercury, donc, et les Victoires de la Musique qui avaient connu le scandale Steffend, donc cette chanteuse que personne ne connaissait, mais qui s'était retrouvée être la chanteuse de l'année, parce qu'elle était la compagne d'un des organisateurs.
Oui, ça voilà. Peut arriver, oui.
Hein, ça fait partie des choses qu'on voit de temps en temps, malheureusement. Et donc, les Victoires m'avaient confié, en fait, une mission pour dire comment est-ce qu'on pourrait réformer les Victoires de la Musique pour éviter, évidemment, ce genre de choses qui les décrédibilisaient. Et à la suite du rapport que j'avais fait, on m'avait dit, mais ça serait bien que tu prennes la présidence des Victoires pour, justement, faire la réforme et leur redonner leur grande crédibilité. Et les premières Victoires de la Musique donc, que je présidais, diffusées sur France 2, ont été les Victoires où on a ramené les artistes. D'abord, on les a ramenés à l'Olympia, qui était une salle qu'ils aimaient et où ils se sentaient chez eux. Et ensuite, on a fait revenir les artistes avec des numéros formidables, hein, comme Johnny qui chantait avec Jean-Jacques Goldman, avec Pascal Obispo, l'accompagnant au piano, etc. Enfin, vraiment des choses. Et ça a été un très grand succès d'audience. Les Victoires de la Musique ont battu TF1 ce soir-là pour la première fois depuis des années. Et donc, Jean-Pierre Cottet, qui dirigeait France 2 à l'époque, dans la foulée de ça, m'a dit « Vous avez l'air de savoir comment on fait de la télé, donc voilà, je vous propose de reprendre les variétés, les jeux et les divertissements de France 2 qui vont un peu moins bien depuis quelque temps. »
Voilà. Et finalement, vous ne pensiez pas un jour faire de la télévision, Yves Bigot ?
Alors, j'en avais fait comme animateur du Top 50, vous l'avez rappelé. Moi, je considère, Jacques, que tout ce que j'ai fait, c'est un seul même et même métier. C'est-à-dire que la radio, la télévision, la presse écrite, même de l'édition, puisque j'ai publié quelques livres, la direction de maisons de disques, c'est des métiers du journalisme et de la culture. Et j'ai simplement le sentiment que ce sont les différentes cordes, non pas d'un même arc, qui n'a qu'une corde, mais d'une même harpe.
Alors, vous êtes arrivé à un moment historique, c'est-à-dire que la télévision était à l'époque près des Champs-Élysées. Il y a un bâtiment qui a été construit place Henri de France. Et moi, je me souviens de ce bâtiment près des Champs-Élysées où il y avait TF1 et Antenne 2. Et un jour, Mourouzi arrive sans son badge. Le gardien a dit « Vous n'avez pas de badge, vous ne rentrerez pas ». Et c'est comme ça que Mourouzi est rentré chez lui et n'a pas présenté le journal de 13h.
Mais vous savez, Jacques, ça arrivait encore, y compris quand j'étais patron des programmes, de tous les programmes de France 2, ça m'arrivait de me pointer à la réception en disant « Bonjour, je suis désolé, j'ai oublié mon badge ». Oui, monsieur Bigot, mais sans votre badge, vous ne pouvez pas rentrer. Ouais. Je dis, mais vous savez qui je suis, puisque vous venez vous-même de dire mon nom. Et oui, mais on ne peut rien faire pour vous, alors il faut que vous appeliez quelqu'un qui vienne vous chercher.
Voilà, c'est des pratiques. Alors, vous avez installé à votre arrivée des programmes qui, finalement, ont eu un certain succès, puisque Michel Drucker, Vivement Dimanche, Patrick Sébastien, le plus grand cabaret du monde, c'est vous, Yves Bigot.
Oui, un gars, une fille aussi, oui, qui oui. Est, je pense, quand même un des plus beaux succès de ma carrière. Oui, bien sûr. Voilà, parce que ce qui est important à la télévision, c'est d'installer des marques. Et donc, quand je suis arrivé à France 2, d'ailleurs, il fallait tout reconstruire, en tous les cas au divertissement, parce que toutes les émissions étaient arrêtées. Et donc, il a fallu rebâtir avec Patrick, le plus grand cabaret du monde, après un peu de tâtonnement, avec Michel aussi, hein, Vivement Dimanche, la première année, ça ne marchait pas du tout, parce qu'on était dans une formule un peu trop... Tutti Frutti, hein, et je vais vous dire, le jour où on a trouvé la bonne formule de Vivement Dimanche, c'était à l'occasion des 50 ans de Paris Match, une émission spéciale. Et où là, on avait eu l'idée de faire des plateaux qui réunissaient quatre stars féminines du cinéma français, quatre vedettes masculines, quatre chanteurs, quatre chanteuses, et quatre anciens premiers ministres. Et là, on a assisté à l'interview par Michel, donc de Michel Rocard, Édouard Balladur, Laurent Fabius.
Et Pierre Mauroy, peut-être, non ?
Alors, je ne crois pas, parce que c'était deux de droite, deux de gauche. Ouais. Mais en tous les cas, une interview comme on n'en avait jamais entendu, parce que Michel leur posait des questions sur la manière dont ils vivaient à Matignon, mais donc de manière intime, pas raconter la grande politique, non, raconter ce que c'est pour un homme d'être Premier ministre de la France en période difficile, de crise, la guerre du Golfe ou autre. Et quand Michel est sorti après l'enregistrement juste de ce plateau, il a marché vers moi comme ça, on s'est regardé dans les yeux tous les deux, et on s'est dit, je crois à peu près en même temps, tu penses la même chose que moi ? Et là, on savait que Vivement Dimanche allait durer très longtemps.
Oui, et effectivement, vous n'êtes pas surpris que ça continue encore aujourd'hui ?
Non, je ne suis pas surpris. Et d'ailleurs, je trouve formidable que Delphine Ernotte poursuive cette émission encore aujourd'hui, parce que la télévision a besoin de repères, elle a besoin d'animateurs en qui les téléspectateurs ont confiance, et en particulier à France 2, qui est la chaîne des animateurs. Moi, j'en avais fait, j'ai eu la chance extraordinaire d'avoir une Dream Team avec laquelle, d'ailleurs, on a tué les 7 d'or à cause de ça. Parce que c'était la dernière année de Michel Cotta. Et donc, ça, vous savez, les 7 d'or, ça tournait une année TF1, une année France 2, une année France 3. Ça revenait à France 2. Donc, c'est la seule fois où je les ai produits. Et je m'étais dit, avec Patrick Mahé, que vous connaissez, j'avais dit, il faut qu'on fasse... vraiment la Dream Team de France 2, parce que c'est ce qui nous marque. Et j'étais allé voir, alors on avait un problème de budget, parce que je dis, mais si les 7, puisque t'es les 7 jours, donc les 7 stars de France 2 co-présentent ensemble, pour la seule et unique fois de leur vie, si je leur donne leur cachet habituel à tous, j'ai pas le budget. Donc j'étais allé les voir en disant, écoutez, vous allez travailler tous gratuitement, parce que c'est pour Michel Cotta. Et comme ils adoraient tous Michel, ils ont tous accepté de le faire pour Michel, et donc j'ai pu présenter pendant 3 heures, ensemble, alors avec toutes les tensions ou les inimitiés qui pouvaient exister entre eux, donc Patrick Sébastien, Michel Drucker, Jean-Luc Delarue, Thierry Ardisson, Laurent Ruquier, Daniel Alombroso et Christine Bravo. Et j'ai passé 48 heures d'enfer, mais aujourd'hui, on en rigole tous entre nous, et surtout, on a fait une audience tellement énorme que plus jamais aucune autre chaîne n'a voulu produire les 7 d'or.
Et voilà comment on refait l'histoire. L'histoire, elle continue avec la télévision, on en parle dans quelques instants à travers une autre date, 8 mars 2021. A tout de suite sur Sud Radio avec Yves Bigot.
Sud Radio, les clés d'une vie, Jacques Pessis.
Sud Radio, les clés d'une vie, celle de mon invité Yves Bigot. 8 mars 2021, la cérémonie des lauriers d'or de l'audiovisuel, le 26e, et vous recevez un laurier d'or pour l'ensemble de votre carrière, carrière qui continue, et c'est un trophée qui est décerné par les professionnels, Yves Bigot.
Oui, et qui fait de moi, par ailleurs, l'homme de, ou la personnalité de l'année 2020.
Alors c'est parce des
que
compliments.
Ça, voilà, ça montre que j'ai sans doute toujours une utilité encore en 2021, j'espère, en tous les cas. Écoutez, c'est très valorisant et touchant d'être reconnu par ses pairs, bien entendu. À la télévision, comme vous le savez, on est jugé par nos clients, les téléspectateurs, tous les matins à 9h04. Donc ça, on connaît la vie de ceux pour lesquels on travaille.
C'est le sondage.
Voilà, mais la vie de ceux qui font le même métier que vous, ben forcément, c'est important, et en tous les cas, ça fait plaisir, c'est gratifiant, parce que ben, ce sont des gens qui savent ce que vous devez faire quotidiennement pour arriver à délivrer ce que vous faites et à travers les années. Donc oui, bien sûr, ça serait hypocrite de dire que ça ne m'a pas touché.
Et vous avez fait un discours qui était difficile, semble-t-il, parce que parler de vous, remercier, c'était pas évident.
Alors c'est... la preuve que je peux parler de moi très facilement, Jacques, en tous les cas, c'est que vous l'obtenez sans difficulté. Je pense que les conditions dans lesquelles on tournait les lauriers ne m'ont pas aidé. je dois vous dire, j'ai fait une entrée de chant assez spontanée, parce que j'ai compris qu'à un moment, c'est à moi qu'on parlait. et effectivement, c'était pas facile. On était en pleine crise du Covid. On l'est toujours, mais voilà.
En tout cas, vous avez fait un parcours que vous n'imaginez pas aussi fort, à mon avis, et surtout un parcours sans les écoles, ce qui est rare aujourd'hui, Yves Bigot.
Alors oui, sûrement. Moi, je suis un autodidacte complet. Je ne me suis même pas rendu aux épreuves du bac parce que j'avais une émission à Radio Monte Carlo le même jour.
On peut pas tout faire. Oui.
Donc voilà, je ne pouvais pas me démultiplier. Donc oui, bien sûr, moi j'ai tout appris sur le tas, mais je pense que c'est là qu'on apprend le mieux parce qu'on apprend à la dure et puis on apprend vraiment son métier. On n'apprend pas la théorie de son métier, on apprend à le faire. Et puis surtout, je vous dirais, moi, la meilleure école à laquelle j'ai été, ça a été Europe 1 pendant 17 ans parce que j'étais dans une maison dans laquelle il y avait tous les cadors de la planète ou qu'ils soient allés par la suite et si vous survivez dans cet univers-là, entre tous ces monstres, Michel Cotta, Philippe Gildas, Jean-Pierre Elkabbach, Gérard Carrérou, Yvan Levaille, et j'en passe, et des dizaines, Eugène Saccomano, François Choisel. Si vous survivez là-dedans, ben forcément c'est que vous êtes devenu bon.
Oui. Mais en même temps, ce que vous avez fait ne peut pas s'imaginer aujourd'hui. Aujourd'hui, il faut une école, sinon on ne rentre pas dans une rédaction ou à la radio.
Sûrement, oui. Ben ça, j'ai eu de la chance d'avoir des bonnes fées. Je vous dis, Christian Geldresch, mon premier mentor, Yves Abraham, ensuite dont je suis devenu l'assistant à Europe 1, Jean-Pierre Cottet qui m'a engagé à France 2 par la suite. Vous savez, quand Jean-Paul Philippot est venu quand j'étais en difficulté à France Télévisions, est venu me chercher pour me demander de diriger la télévision belge. Voilà. Vous savez, on ne réussit que grâce aux autres.
Oui, et avec ce côté mercenaire que vous avez. Alors, aujourd'hui, vous dirigez depuis 8 ans TV5 Monde. Bon, c'est connu dans le monde entier. C'est né il y a 36 ans, mais finalement, en France, on ne connaît pas beaucoup TV5 Monde.
C'est vrai, parce que nous sommes uniquement une chaîne du câble et du satellite en France, mais journalistes et mes présentateurs qui pourraient venir dans les couloirs de Sud Radio, on leur dirait, mais monsieur, qui êtes-vous les capsules de café, il faut les donner à la jeune fille qui est à l'entrée, ne peuvent pas faire un pas dans les rues de Kinshasa, Dakar, Yaoundé, Abidjan ou autre, parce que c'est à l'étranger, notamment en Afrique, que TV5 Monde a son audience, plus de 60 millions de téléspectateurs hebdomadaires, et 360 millions de foyers qui reçoivent la chaîne partout dans le monde, y compris en Chine, y compris en Corée du Nord, souvent grâce au sous-titrage en 13 langues. La moitié de nos téléspectateurs ne parlent pas un mot de français, mais nous regardent aussi bien à Pékin qu'à Rio ou à Los Angeles.
Ce qui est étonnant, c'est que TV5 Monde, c'est 198 pays. C'est énorme. On ne se rend pas compte, on ne mesure pas en France le travail que ça représente et la diffusion que ça représente, Yves Bigot.
C'est la totalité des États qui sont reconnus par l'Organisation des Nations Unies, et même en plus quelques autres qui ne le sont pas. Donc effectivement, il n'y a pas un endroit sur la planète où l'une de nos chaînes n'est pas disponible.
Alors, elle est née, cette chaîne, voici 36 ans, avec, je crois, la France, la Belgique, la Suisse et le Canada. Elle s'est développée, et aujourd'hui, c'est l'image de la France dans le monde, TV5 Monde.
On est la chaîne de la francophonie, donc c'est l'image de la France, mais aussi de la Belgique, de la Suisse, du Canada, et des pays d'Afrique francophone, ou du Liban, ou du Vietnam, etc. Notre baseline, comme on dit, ou notre slogan, c'est « Bienvenue en francophonie ».
Oui, et surtout, vous défendez la culture française, la culture francophone, dont on a de plus en plus besoin, Yves Bigot.
La culture, et au-delà de la culture, nos valeurs, évidemment, communes, mais nos entreprises aussi, nos artistes, nos créateurs, oui, bien sûr, et à un moment où d'ailleurs on voit bien qu'on est à un moment géopolitique extrêmement compliqué et tendu dans le monde, et où c'est donc plus que jamais important de promouvoir non seulement les artistes et les entreprises, mais les valeurs de démocratie, de tolérance, de développement durable, de préservation de la planète, de diversité des espèces.
Voilà, et il faut aussi lutter contre ce qu'on appelle les fake news, qui ont été lancées, je crois, par Donald Trump pendant l'élection présidentielle américaine, pendant sa campagne. Il l'a employé 40 fois en l'espace de 20 semaines. Ça vient de là, les fake news.
Oui, alors évidemment, avant on appelait ça des rumeurs.
Oui. Mais maintenant, l'Académie française appelle ça des contre-vérités ou des ragots.
Voilà, et le mot précis, c'est les infox en français. Hein. L'Académie a décidé de les baptiser ainsi. Mais surtout, c'est que maintenant, c'est devenu une stratégie politique, une stratégie commerciale, une stratégie économique et de déstabilisation des démocraties. C'est en ça que c'est très, très inquiétant et que c'est un de notre rôle dans le service public, mais aussi de médias privés, de combattre les fausses nouvelles. Et vous savez, nous, moi, mon credo, hein, et ça, on partage ça vraiment avec les gouvernements hein, qui sont les bailleurs de fonds de TV5 Monde, c'est que notre rôle, c'est évidemment d'apporter la culture au plus grand nombre, c'est aussi de nous adresser à tous les publics spécifiques, mais c'est aussi et surtout d'apporter une information fiable et vérifiée aux citoyens de nos pays pour qu'ils puissent s'appuyer sur des réalités au moment notamment où ils doivent prendre des décisions pour l'avenir de leur pays, donc notamment quand ils vont voter.
Voilà. En même temps, une chose importante, à un moment où on entend les mots pitch et phoneur pour une interview par téléphone, ce que je ne comprends absolument pas, vous défendez l'enseignement du français. Il y a 900 000 professeurs de français dans le monde aujourd'hui.
Oui, bien sûr, il y a énorme. Le français est la deuxième langue la plus enseignée sur la planète. Il se trouve que par ailleurs, je cumule, mais de manière bénévole, avec mon double travail de directeur et de général à TV5 Monde, je préside la Fondation des Alliances Françaises, et qui ont évidemment, comme d'ailleurs à TV5 Monde, la mission d'enseignement, d'apprentissage du français et de promotion de la culture française et de la culture francophone. Oui, bien sûr, c'est quelque chose d'essentiel, non seulement pour nous, mais pour nos enfants, pour nos petits-enfants, pour l'influence de la France et du français dans le monde, mais simplement pour qu'ils aient un emploi, pour qu'ils aient un travail, parce que, comme l'avait démontré le rapport de Jacques Attali il y a quelques années, on fait 60% de plus de commerce avec quelqu'un dont on partage la langue.
Voilà. Alors, tout le monde dit que c'est l'anglais la langue principale. Non, le français existe encore, Yves Bigot.
Le français existe extrêmement puissamment. Je vous dis, la deuxième langue la plus enseignée au monde, la cinquième la plus parlée, à peu près 300 millions de locuteurs aujourd'hui, mais surtout avec un potentiel, grâce à la démographie africaine galopante, de 700 ou 800 millions de locuteurs du français en 2050. Donc c'est quelque chose d'absolument formidable, mais ça ne va pas se faire automatiquement. Il faut de l'investissement, justement, des médias en français, mais aussi, et bien sûr, des professeurs, des lycées, des instituteurs, de l'enseignement en ligne, pour réaliser ce qui aujourd'hui n'est encore qu'une promesse. Mais moi, je suis d'autant plus à l'aise, cher Jacques, pour promouvoir le français, que je parle anglais extrêmement couramment, je comprends l'espagnol, le portugais, et même l'italien, et même un peu le néerlandais. Donc, de la même manière, d'ailleurs, que le président de la République, Emmanuel Macron, nous envisageons, nous, à TV5 Monde et dans les alliances françaises, le français dans le cadre du plurilinguisme et du multilinguisme. C'est-à-dire, on ne veut pas recréer la colonisation par la langue du tout. On veut simplement que le français existe à côté de l'anglais, à côté de l'arabe et à côté de toutes les langues nationales ou même les langues locales, que ça soit en Europe, en Afrique ou ailleurs.
Et quelque chose de très important, c'est que vous lancez aujourd'hui une plateforme numérique, c'est la mode, et c'est l'avenir, avec bientôt 5000 heures de programme, et ça c'est une façon de faire connaître en plus le programme et le français à l'étranger, Yves Bigot.
Bien sûr, c'est surtout un moyen d'assurer ce que les Canadiens appellent la découvrabilité des programmes en français dans l'univers numérique, puisque aujourd'hui, beaucoup de la population qui a moins de 35 ans ne consomme plus les médias traditionnels, mais va directement en ligne pour s'informer, pour consommer des séries, des films de cinéma, des documentaires, du divertissement, des concerts, etc. Donc oui, bien sûr, c'est pour être auprès de cet univers, et notamment parce que vous savez qu'en Afrique, la moyenne d'âge de la population est de 17 ans. Donc vous imaginez l'avenir du français l'avenir de la francophonie, il est non seulement en Afrique, mais surtout, il est auprès des jeunes générations. Et donc, il faut savoir les toucher là où elles sont, là où elles se rendent.
D'ailleurs, il y a une série qui marche très bien en Afrique, c'est celle-ci. Maman Africa, qui est une sorte de un gars, une fille, entre guillemets, que vous diffusez. Personne ne la connaît en France, mais c'est un immense succès là-bas.
Oui, bien sûr. Ben, effectivement, ça fait partie de notre mission à TV5Monde de développer les programmes africains. Donc, on produit beaucoup, on produit du cinéma africain. On était coproducteurs de Timbuktu, de Grigri, qui ont été primés à Cannes, au César et ailleurs. Mais on produit aujourd'hui à peu près 80 séries ou web-séries comme Mama Africa en Afrique, où on permet de développer le terrain, non seulement des auteurs, mais des réalisateurs, des comédiens, des techniciens, des producteurs en Afrique. On a des séries alors, qui sont des séries de télé comme Ouara, qui est une série politique qui se passe à Saint-Louis du Sénégal, où on vient de lancer par exemple Mélodie, la victoire en chanson, qui est la première comédie musicale en Afrique francophone, en 8 fois 52 minutes. Et vous verrez, c'est très différent des séries américaines ou même de Capitaine Marlowe, mais ça connaît ce sont des séries d'abord qui monte d'année en année en qualité de manière stupéfiante, parce qu'il y a des histoires fantastiques en Afrique, il y a des talents fantastiques et qui remportent donc un succès formidable en Afrique de l'Ouest, en Afrique centrale et dans l'océan Indien.
Et voilà, et ça c'est sur TV5 Monde que je vous conseille, si vous nous écoutez, de regarder, parce qu'il y a des choses étonnantes qu'on ne verra nulle part ailleurs, et vous méritez bien ce laurier d'or en attendant la suite.
Bien sûr, Jacques, on est une vraie chaîne de service public.
C'est important, c'est essentiel. Merci en tout cas d'avoir raconté tout cela sur Sud Radio, où vous êtes toujours le bienvenu, parce que comme vous, nous parlons vrai.
Merci beaucoup, cher Jacques.
Merci Bigot, les clés d'une vie, c'est terminé pour aujourd'hui. On se retrouve bientôt, restez fidèles à l'écoute de Sud Radio.